La dernière étude de l'INSEE sur la population française indique que d'ici à 2070, la pyramide des âges serait largement modifiée. Le nombre de personnes de plus de 75 ans devrait croître de 5,7 millions, tandis que celui des moins de 60 ans diminuerait de 5 millions. Cette enquête affirme d'ailleurs que la poursuite du vieillissement de la population française jusqu'à 2040 est quasi certaine. Cette affirmation invite à s'interroger sur le renouvellement des générations, notamment par le biais de l'encouragement à la natalité. Et c'est pour ça que, pour nous éclairer sur cette question, nous recevons ce matin la présidente de la Fédération des associations familiales catholiques de Haute-Garonne. Bonjour Anne de la Doucette.
Bonjour Isabelle.
Alors, parallèlement à cette étude de l'INSEE, l'Inspection générale des affaires sociales, l'IGAS, a publié un rapport indiquant un taux de fécondité d'1,8 enfants par femme. Cet organisme prévoit pour les prochaines années une baisse de ce taux à 1,65. C'était le taux le plus bas qui avait jamais été atteint en 1994. Ce rapport précise aussi que le désir d'enfant est aujourd'hui de 2,39 enfants par femme. Pourquoi un tel écart, Anne de la Doucette ?
Oui, on peut se poser la question de pourquoi un tel écart, parce que ce chiffre de désir d'enfant de 2,39 montre qu'une famille sur deux aurait un enfant en plus si elle le pouvait. Alors pourquoi est-ce qu'elle n'a pas ce deuxième enfant ? En fait, les AFC ont fait un sondage auprès de 1000 personnes qui a été publié dans La Croix, et les réponses montrent que 33% des personnes interrogées estime que la dégradation de la politique familiale ces dernières années les a amenés à renoncer à avoir un enfant supplémentaire. Et ce pourcentage, il est encore plus élevé chez les parents d'enfants de 0 à 4 ans, puisqu'il s'élève à 42%. Et lorsque on leur demande, en fait, une autre question qu'on posait, c'est est-ce que vous attendez d'avoir un enfant, d'avoir un autre enfant, de différer cette naissance, le chiffre était encore plus élevé. Donc ça prouve que cette politique familiale a une influence sur le nombre d'enfants à naître, surtout le troisième enfant. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette dégradation ? On peut se poser pourquoi cette dégradation a eu lieu. En fait, un tournant s'est opéré sous la présidence de François Hollande, qui a été marqué par des mesures qui ont limité toutes les mesures qui étaient universelles, c'est-à-dire qui touchaient toutes les familles, donc des mesures horizontales, au profit de mesures plus ciblées sur certaines familles. En effet, sous François Hollande, je vous donne plusieurs exemples. On a divisé par 3 la prime de naissance à partir du deuxième enfant. Donc, ça ne pousse pas à l'avoir un troisième. On a diminué le congé parental pour les mères de famille. On a donc une mère de famille qui a déjà 2 enfants, si elle en a un troisième, forcément, elle a besoin d'un congé parental assez important. On a abaissé par 2 fois le quotient familial. Vous savez, c'est ce qui permet des déductions fiscales. On a mis sous condition de ressources certaines allocations familiales et on a baissé le complément de mode de garde. Donc, tout cela a fait que les familles ont été un peu pénalisées pour avoir cet enfant, en comptant, n'ont pas été encouragés.
Oui, ça a envoyé des signaux négatifs.
Très négatifs, voilà. Et en fait, ça montre aussi que la politique familiale joue un rôle déterminant sur la maternité. Et ça ne s'arrange pas parce que sur des dispositions plutôt fiscales ou monétaires, mais il y a aussi des dispositions matérielles. Parce que quand vous avez un troisième enfant, il faut aussi le mettre à la crèche.
Donc, mais plus d'enfants, plus de crèche. Oui, ça change quoi au niveau de la finance ?
Alors, au niveau de la finance, on a moins d'argent. Et au niveau, concrètement, il faut que les dispositions matérielles vous permettent aussi de placer votre enfant en crèche. Donc, plus d'enfants, plus de places de crèche. Et Emmanuel Macron avait annoncé la création de 30 000 crèches sous son quinquennat. Et on s'arrêtait à
30 000 places de crèche.
30 000 places de crèche, oui, pardon. 30 000 places de crèche. Et on s'arrêtait à 15 000. Donc, les familles ne sont pas incitées à avoir 3 enfants ou plus d'enfants actuellement, surtout avec la crise aujourd'hui.
Oui, alors vous évoquez des difficultés financières qui empêcheraient les familles d'avoir un troisième enfant. Est-ce qu'il s'agit de toutes les familles ou est-ce que ce sont certaines catégories de familles qui sont impactées par toutes ces mesures qui s'enchaînent ?
Alors, on voit aujourd'hui avec la crise économique que ce sont surtout les classes moyennes qui sont en train de baisser et de s'appauvrir énormément. Et c'est surtout dans ces familles-là que l'arrivée d'un troisième enfant est problématique. parce qu'il faut une nouvelle voiture, parce que quand vous avez deux enfants, vous avez une chambre d'enfant, puis quand vous en avez trois, il vaut mieux deux chambres d'enfants, sinon ça devient difficile à vivre pour le quotidien. Donc, et ces, parmi ces classes moyennes, les catégories les plus touchées, ce sont les ouvriers et les indépendants. Parce que, par exemple, les indépendants, ils ne sont pas comme les salariés avec un revenu fixe. Et du coup, les banques ont du mal à leur faire des prêts pour acheter une maison. Et puis, ce sont des catégories sociales qui sont au-dessus des barèmes d'aide sociale pour la famille, pour les enfants, et qui, à la fois, payent quand même des impôts. Donc, ils sont deux fois pénalisés. Ils payent des impôts et ils n'ont plus d'aide. D'ailleurs, on remarque qu'en France, en 10 ans, le nombre de naissances est passé de 840 000 à 740 000. Donc, il y a un déficit de 100 000 naissances. Mmh. Et c'est en corollaire avec toutes ces mesures qui sont prises. Donc, on peut à juste titre se dire qu'il y a un lien de cause à effet, surtout aujourd'hui où la vie est de plus en plus difficile pour de plus en plus de familles.
Voilà. Et alors ce lien dont vous parlez entre les prestations familiales et puis le nombre d'enfants n'est pas forcément mis en avant dans ce fameux rapport de l'IGAS, de l'Inspection Générale des Affaires Sociales. Et justement, cet organisme préconise d'aider en priorité les familles monoparentales. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose de privilégier un type de famille par rapport à une autre ?
Non, en fait, tout dépend ce qu'on veut faire de la politique familiale. La politique familiale, elle a été mise en place en 1945 pour aider les familles à avoir, à former le baby-boom, pour avoir de nouveau des enfants. Et une politique familiale, elle a un but horizontal, une équité horizontale, c'est-à-dire qu'on va aider toutes les familles.
Quel que soit leur revenu.
Parce qu'une famille qui a, je sais pas, 4 000 euros de revenus avec deux salaires et qui a deux enfants, vit mieux qu'une famille qui a 4 000 euros de salaire et 4 enfants. Et cette famille qui a 4 enfants va plus aider la société au point de vue économique, aussi bien pour la consommation, aussi bien pour le renouvellement des générations.
Et des retraites.
Donc, elle va participer à la prospérité du pays. Et alors qu'elle participe à la prospérité du pays, finalement, on ne l'aide pas. Il n'y a pas de retour de la société. Donc, c'est pour ça que cette politique a été mise en place. Et depuis une quinzaine d'années, on est en train de quitter cette politique familiale horizontale, d'équité horizontale, pour une politique familiale d'équité verticale.
Est-ce que c'est pour ça qu'il y a cette attention aux familles monoparentales, justement ?
Alors, ce qui est un peu intéressant, c'est que les familles monoparentales ont beaucoup augmenté. En quelques années, elles ont pris 10% de plus. Donc, ces familles monoparentales, elles sont plus fragiles. Quand vous avez une famille avec deux parents, c'est pas moral, hein. C'est quand vous avez matériellement, il y a peut-être deux salaires, et s'il y en a un qui perd son job, il y a encore l'autre. Quand il faut rentrer de l'école pour garder des enfants, quand il y a deux parents, il y en a un qui peut peut-être se débrouiller pour rentrer plus tôt, l'autre commence plus tard le matin, il n'y a pas besoin d'un système de garde. Donc, ces familles-là, et quand vous êtes deux parents, a priori, vous êtes dans la même chambre, donc il n'y a pas une chambre de plus, a priori. Donc il n'y a pas de besoin de logement plus grand pour des familles à deux parents, et tandis que famille monoparentale, vous avez toutes ces fragilités qui fait, et puis l'épuisement de la personne qui est seule avec des enfants, qui fait peut-être aussi qu'elle est plus fragile et que c'est plus facile et plus difficile. Une personne qui, si vous voulez, dans une famille avec deux parents, vous pouvez avoir quelqu'un qui travaille énormément, et l'autre travaille moins, un salaire plus élevé, et l'autre. Dans une famille monoparentale, c'est très difficile d'avoir quelqu'un qui est cadre supérieur parce qu'il ne peut pas s'occuper de ses enfants. Donc c'est compliqué, à moins d'avoir quelqu'un qui s'en occupe. Donc vraiment, la famille monoparentale, c'est une famille qui est fragile, et c'est un choix politique qui se fait, donc ça représente à peu près 30% des familles maintenant, ça se fait au détriment des 66% des familles qui ont les deux parents ou qui sont en garde alternée. Celles-ci, en fait, vont payer pour des familles qui sont déjà fragilisées et ça n'aura pas cet effet levier sur la natalité.
Oui, parce que en fait, ce que je comprends bien quand vous parlez de cette mesure, c'est qu'en fait, ces familles monoparentales, de fait, ont un voire deux enfants et ne vont pas passer le cap du troisième enfant, c'est ça ?
Ben, c'est un peu compliqué quand même. Vous êtes seule, je ne sais pas, vous avez des enfants, Isabelle. Déjà deux enfants, c'est déjà pas mal. Trois, quatre. Et quand on est deux, c'est plus facile. Je ne vois pas comment... Ça existe sûrement, hein, mais je pense que c'est encore plus difficile pour une femme personne seule d'élever trois enfants que pour un couple. Voilà.
Et pourtant, on pourrait se dire, c'est plutôt vertueux de s'occuper des familles monoparentales qui sont dans le besoin. Est-ce que là, il ne peut pas y avoir une attention particulière?
Alors, je crois qu'il ne faut pas tout mélanger. On peut avoir une politique sociale et fiscale sociale pour aider ces familles, et c'est normal. Bon, sans inciter. Il faut que là, il y ait quand même une vision du bien commun. Ces familles fragiles, elles existent, il faut les accompagner. La politique fiscale ne doit pas être incitative à développer ce système. Et puis, donc ça, c'est la politique sociale. Et il y a la politique familiale qui, elle, a pour but, un but plus économique, qui est pour assurer le renouvellement des populations. Et il n'y a pas de raison que les familles qui assurent le renouvellement des populations soient défavorisées, forme de discrimination par rapport aux autres familles. Je crois que c'est important. Et aujourd'hui, on parle beaucoup du droit à l'enfant. Et il est parfois mal que ces familles traditionnelles, parce que c'est comme ça qu'elles étaient dans le code civil, ne puissent pas avoir troisième enfant, qu'elles soient pénalisées, elles aussi.
Alors, pour apporter davantage de financement aux familles monoparentales, il faut bien trouver l'argent là où il est. Le rapport de l'IGAS préconise la suppression de la demi-part supplémentaire accordée aux personnes seules ayant élevé des enfants. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette préconisation?
Alors, si j'ai bien compris, c'était une mesure qui a été prise quand une femme était veuve ou quand elle se retrouvait seule et qu'elle avait élevé de ses enfants pour qu'elle puisse vivre un peu, on lui a donné cet avantage fiscal. Mais cette mesure a été, avec le fil du temps et la baisse des mariages, cette mesure a semble-t-il été un peu dévoyée parce que chacun, on ne se mariait pas, on avait des enfants, on était une personne isolée et on touchait cette prime, si j'ai bien compris.
Donc chacun pouvait disposer de cette demi-part, même s'il y avait deux parents. Et
moi, je me rappelle, d'accord, il y a 35 ans, quand on disait, ça va te coûter cher de te marier. Tu ferais mieux de pas te marier, mais bon, voilà, non, on se mariait. Parce qu'on veut. Voilà. Donc c'est, en fait, c'était ça. Les gens qui se mariaient, étaient, d'une certaine façon, avec le dévoiement de cette mesure, étaient pénalisés. Donc, qu'elle soit supprimée, c'est assez plutôt logique, parce que en fait, les familles, elles n'ont plus de justification aujourd'hui. Il y a d'autres aides pour les femmes seules qui se mettent en place.
Alors, la mission recommande aussi de supprimer la réduction d'impôt pour frais de scolarité des enfants qui sont scolarisés dans le primaire et le secondaire. Qu'est-ce que vous en faites comme interprétation?
Eh ben, c'est encore une mesure qui est contre contre les familles. Je veux dire, au lycée, au collège, les enfants commencent à coûter quand même plus cher. Là, il y a la déduction est de 61 euros pour les collégiens, 153 euros pour les lycéens. C'est un petit coup de pouce. C'est un signe qui est en faveur des familles pour les aider à élever leurs enfants le mieux possible. Ils ont besoin maintenant d'ordinateurs, de plein de choses pour travailler, de livres. Ça peut aider des familles qui sont au-dessus au-dessus des barèmes et qui n'ont pas grand-chose. Un petit coup de pouce de la société. Et puis, il faut encore dire que la somme accumulée de cette allocation s'élève à 170 millions d'euros. Donc, c'est 170 millions d'euros qui partiraient vers les familles monoparentales. Donc, voilà, on pompe la politique familiale qui est nataliste pour faire du social. Et je crois que ce n'est pas bien de mélanger les deux. Et on va avoir des problèmes. Par exemple, en Italie, en Pologne, depuis 2000, ils ont mis une politique nataliste pour aider les familles. Leur taux de natalité a remonté. En Italie, depuis cet été, ils ont donné une somme chaque mois de 250 euros à partir du 7e mois de grossesse jusqu'à 21 ans pour chaque enfant qui naît. Donc, les pays européens se rendent bien compte qu'ils sont en train de vieillir et qu'une politique nataliste est importante. Il n'y a que nous qui marchons dans le sens inverse. Alors, dont on va porter à plus tard les conséquences économiques qui seront très élevées avec le vieillissement de la population, les retraites.
Alors, l'avenir nous dira si le prochain président de la République va remettre la politique familiale en haut de ses priorités. Signalons toujours, selon l'INSEE, que si l'indicateur conjoncturel de fécondité augmentait à 2 enfants par femme, eh bien, tout simplement, le solde naturel resterait positif jusqu'en 2046 et la France aurait 4,1 millions d'habitants en plus. Donc, ça pourrait rééquilibrer justement les générations, comme vous le disiez. Merci beaucoup, Anne de la Doucette, d'être venue ce matin présenter les nouvelles préconisations de l'Inspection générale des affaires sociales en matière de politique familiale.
Merci, Isabelle.